Nuit magnétique, bonsoir.
Fabriquer l'homme, c'est fabriquer les parents et les enfants. Les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents.
La fabrique de l'homme occidental. Une émission de Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Aujourd'hui, la chaîne.
Fabriquer l'homme, c'est fabriquer les parents et les enfants. Les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents.
Daniel Boulet, Pessac, mai 1992.
Nous avons affaire en assistance éducative à des papas et des mamans qui, bien souvent, en raison de leur histoire à la génération précédente, sont restés des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu changer subjectivement de place. Et on est en face de ce malentendu absolu, absolu, où ces parents demandent à leurs enfants naissants d'être leurs parents. Ce qui fait que les enfants, à leur tour, la plupart du temps, demanderont à leurs enfants d'être leurs parents, car ça fait des enfants sans parents. Ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents. Ces parents ont une demande inconditionnelle d'amour par rapport à leurs enfants. Il faut que leurs enfants viennent la réparer absolument tout ce que leurs propres parents, dont ils ont souvent été séparés, ne leur ont pas donné. Les parents peuvent être aidés à endosser leurs habits de parents. Voilà comment je dirais les choses. Voilà la fonction du juge des enfants. Les aider à endosser leurs habits de parents, si difficiles, comme je le disais tout à l'heure pour certains d'entre eux, si difficiles à endosser, si difficiles d'abandonner le statut d'enfant.
L'humanité est une succession de parents et d'enfants, une reproduction par trio, l'enfant avec sa mère et son père. Leur multitude a un sens, parce que ça se passe ainsi dans l'espèce douée de parole. La vie a un sens, le sens d'une filiation. Naître de ses parents, c'est cela la filiation. On peut donc dire « tout enfant est fils ». Les anciens appelaient l'enfant un fils, quel que soit son sexe. Ils disaient « fils de l'un et l'autre sexe » pour désigner le fils et la fille. Et de nos jours encore, les langues en portent parfois la trace, en Europe et ailleurs, dans les Flandres ou au Tibet. En pays flamand, on dit le garçon-garçon pour désigner le fils, le garçon-fille pour désigner la fille. On peut comprendre ça comme une manifestation de sexisme. La femme serait une espèce d'homme, mais cette curieuse façon de parler nous dit aussi que les deux sexes sont égaux devant la question du père. La filiation est un montage d'une précision et d'une complexité incroyable, le montage de la chaîne humaine.
Jean-Claude Chanceau, Libourne, mai 1992.
Mon travail de psychiatre, de psychothérapeute d'enfants montre quelque chose que probablement nous savons bien. C'est qu'il y a bien peu de mots qui arrivent à bien s'installer entre ceux qui s'aiment. Alors, on sait parler d'amour, probablement. On le croit, mais je ne suis pas sûr que les enfants entendent bien parler d'amour. Je suis frappé de voir qu'il y a peu d'enfants à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui entendent leur père, par exemple, leur dire qu'il les aime. Autrement que par des automatismes de langage, avec le maniement des mots qui sont réservés à cet usage, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des diminutifs animaliers, qui évite toute représentation qui serait trop fortement connotée avec le charnel peut-être de ces choses. Quand vous demandez à un enfant quels sont les mots de son quotidien, quelles que soient les circonstances familiales, on sait ce qu'ils sont. Et il commence le matin. Les mots qui reviennent, c'est « dépêche-toi »,« tes mains »,« lave-toi »,« ton déjeuner va être froid », »,« où t'as mis tes chaussures ». Et quand on scande la journée, cela revient à midi, cela revient le soir, et qui se termine par il est tard, va se coucher, est-ce que tu as fait tes devoirs? Bien. Et puis de temps en temps, il y a une grande prestation des grands prêtres familiaux où on va expliquer la musique, où on va expliquer le foot, où on va expliquer. Alors, pourquoi pas? Moi, je ne crois pas que les familles doivent être des lieux où peut-être doit s'instituer comme cela de grands discours. Mais les choses qui sont importantes pour l'enfant, c'est-à-dire le sens qu'il peut donner aux choses qui se déroulent dans sa famille, doivent être accompagnées par la mélodie des paroles parentales, comme la mère qui s'occupe de son nourrisson et qui deviendrait silencieuse. Quand on écoute une mère qui travaille à faire vivre son nourrisson, eh bien, il y a toute une industrie du mot. C'est-à-dire que la mère annonce au nourrisson ce qu'elle va faire. Maman, maintenant, elle va laver le petit ventre de son petit. Et au moment où la mère fait cela, elle touche ce ventre. Et c'est qu'à ce moment-là que se produit toute une convergence entre une sensualité des mots maternels, mais aussi, mais surtout, une mélodie de ces mots maternels, un choix de ces mots maternels, une recomposition du visage maternel, une extase, un bonheur, une paix, une sérénité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour l'enfant, il y a une espèce de signifiant poétique, au sens d'une transposition du banal de la vie, qui fait qu'entre ce qu'il ressent, ce qui lui est donné, ce qui est dit, il y a comme un effet de transformation heureuse de l'ambiance et de la réalité. Tout cela est... Alors les mots, là-dedans, ont leur place essentielle, et ils sont beaucoup plus que le commentaire, que l'explication, ils sont ce qui, de la mère, est donné en commun autour de ce qui se déroule et autour de ce que l'enfant ressent. C'est pour ça qu'on sait bien que quand une mère est déprimée, au sens où elle n'a plus rien à dire, elle est tragiquement dangereuse pour son enfant, même si c'est la meilleure des femmes du monde.
Les humains ne sont pas des pions, des éléments interchangeables. Personne ne peut vivre à la place d'un autre. Personne ne peut vivre la vie d'un autre. Cela paraît évident, mais ici, l'évidence est trompeuse. En découvrant les phénomènes inconscients, Freud a fait tomber les évidences de l'identité. Il a découvert un mécanisme qui défie la logique des apparences. Une formule mystérieuse de Rimbaud résumerait assez bien les choses. « Je est un autre ». Et nous abordons la filiation différemment. Il ne s'agit plus de cet univers plat des certitudes traditionnelles. Physiquement et consciemment, chacun est séparé de sa mère par la naissance. Il sait qu'il est né. Nous avons affaire désormais à un univers en relief. L'autre scène, la scène inconsciente du sujet humain, est ce champ clos des images qui le tiennent, où il risque de s'enfermer, avec pour enjeu le désir de vivre et la raison. La psychanalyse a fait découvrir cette nouvelle dimension des montages institutionnels. Nous savons maintenant que les règles de la filiation sont le garde-fou de l'humanité, parce qu'elles mettent la main à la pâte dans la fabrique du sujet et l'amènent à cette seconde naissance qui consiste pour l'être humain à vivre et désirer pour son compte, non plus pour le compte de ses parents. L'homme va se désaliéner de ses premières images. On appelle tout ce travail l'ordre symbolique, car c'est la parole qui est l'outil premier dans cette fabrique du sujet.
D'examens qui sont maintenant faits au plan génétique. Certains de mes confrères généticiens se trouvent en possession de redoutables secrets, c'est-à-dire de constater que la fréquence des enfants illégitimes est beaucoup plus grande que, je ne sais pas si c'est qu'on l'imagine, qu'on veut le croire, qu'on peut le croire, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils ont, des informations chaudes qui sont en jachère, dont ils ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire de situations où tout laisse penser que le sang a officié dans son bouclage généalogique, et puis qu'en fait, il y a eu la rupture, et que là-dedans, eh bien, il y a l'irruption de quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, ce qu'on peut constater, ce que peut-être il faudrait examiner dans le détail, c'est ceci, c'est que la rupture du lien du sang n'apparaît dans sa nocivité que lorsqu'elle est, si nocivité il y a, que lorsqu'elle est révélée. C'est-à-dire que quand il y a conviction de lien du sang ou qu'il y a absence de déconviction du lien du sang, les choses iraient très bien. Autrement dit, le lien généalogique biologique semblerait officier non pas par la biologie, mais par la culture même et la connaissance de cette biologie. Ce qui est une façon de dire que ce lien n'existerait peut-être pas autrement que dans ses aspects génétiques, qui sont loin d'être négligeables et dont on n'a pas fait le tour encore. Mais ce que nous voyons, c'est la puissance que va prendre tout ce qui va s'argumenter autour de ce lien. Alors les conflits, les haines, les rivalités entre familles d'accueil, familles de parrainage maintenant, familles dites biologiques ou naturelles, et qui viennent convoquer toute une argumentation sauvagement dirigée contre l'enfant. Pourquoi je dis sauvagement ? Parce qu'à ce moment-là, on voit bien l'émergence de tout ce qui va signifier l'enfant comme étant objet de propriété. Il est à moi, il est mien, c'est ma chose. C'est-à-dire que là, on assiste à la première, au premier échec de ce qui va humaniser le lien du biologique de l'enfant avec sa famille vers un lien de l'humain et de le social. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui va être déterminante dans l'histoire d'un enfant, c'est qu'il devienne lui-même autre que morceau de ses géniteurs. C'est la grande histoire de qu'on va appeler l'émancipation, ce que l'on va appeler tout ça. Mais ce que l'on va appeler aussi la psychose, c'est l'impossibilité qu'un sujet puisse être dans un autre statut que statut d'être une espèce d'émancipation, de morceau du corps de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a la césure, la rupture, ce qui va bien instituer qu'il y a l'autre et moi, et que c'est il y a là une césure fondamentale sur laquelle va travailler l'humanisation. C'est-à-dire qu'à la place de cette espèce de fusion au sens du métal comme ça qui va être complètement fondu dans un autre morceau de métal, il y a dans cette espèce d'espace qui se crée tout ce qui va être le destin du désir et tout le destin du sujet. C'est-à-dire tout ce qui va destiner ce que je suis à l'autre, comment on va se relier ceci, comment on va s'instituer avec l'autre, la reconnaissance de l'autre, ma reconnaissance par l'autre, l'invention de ce qui va être notre possibilité de mettre en commun des choses, la parole, le langage, la connivence des propos. Et ceci, c'est toute l'histoire, effectivement, du passage de l'un dans l'autre indifférencié à l'un et l'autre par le tiers promu. Et les liens du sang viennent là poser comme risque la nécessité de réaffirmer qu'il y aurait une biologie première qui relierait un télescopage des corps, tu es mien, tu es totalement moi, et qui vient donc remettre l'archaïsme, encore une fois, dans ces situations. Cela demande un lent et long travail de réélaboration de ce qui a fait toute l'humanisation d'un lien dans une famille. Et on voit bien que ces choses sont très dangereuses parce que toutes les fragilités généalogiques, familiales, affectives, sociales sont reconvoquées sur cette scène. Et on assiste à ces violences, à ces impossibilités de pouvoir mettre en mots, c'est-à-dire en espace. Le mot, c'est ce qui nous permet de mettre en commun quelque chose sans que nos corps aient à se confondre à nouveau. Le mot, c'est un objet balistique qui fabrique de l'espace entre les êtres. Alors, on retrouve ici les grandes questions. Est-ce qu'il faut révéler une histoire? Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il doit y avoir un secret sur une histoire? C'est pas ici ni maintenant qu'on va pouvoir régler ce problème. Rappelons quand même que beaucoup de ces secrets sont des secrets de Polichinelle, qu'ils n'ont de secret que le fait qu'on fait semblant de ne pas savoir. Que néanmoins, comme dans toutes les affaires humaines, on aimerait bien quelquefois pouvoir répondre par oui et non. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Or, on sait bien que les situations nous obligent très souvent à mettre en balance ce qui, d'un révélé, par exemple, va venir faire exploser des vies, briser des vies, et qu'il faut savoir à ces moments-là qu'il y a des choses qu'il faut taire, que ça fait partie de la nature humaine et du destin, en tout cas, d'humain, de savoir que toutes les situations ne peuvent pas être parlées, dites, lancées comme ça en pâture à je ne sais quel dieu informatique ou informatif, hein, qui aurait le droit de tout savoir et de tout dire. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir que nous ne sommes pas capables de dire certaines choses parce qu'elles ne pourront pas être entendues. Ben, il faut se taire.
Ainsi, l'humain ne peut vivre à la place d'un autre sous peine d'être anéanti subjectivement. Et il a droit à recevoir de la société son dû sous la forme que nous appellerons le droit à la seconde naissance, son droit à la séparation subjective. Alors nous allons comprendre ce qu'est la chaîne humaine. Il n'y a pas seulement pour le nouveau venu ses parents, avec lesquels il constitue un anneau vivant de la chaîne. Il y a la succession des anneaux, l'arrangement historique et politique, le style institutionnel particulier, la structure qui permet à l'échelle de la culture la reproduction des parents, la répétition généalogique. Les parents désirent et fabriquent un enfant. Ils ne sont pas les maîtres de l'ordre des générations, pas plus qu'ils ne maîtrisent le monde qui les précède, ni la logique de la reproduction. La chaîne n'est donc pas seulement la généalogie des individus et des familles, mais la généalogie des institutions sans lesquelles les individus et les familles ne se reproduiraient pas.
Alors, le lien du sang, c'est une manière métaphorique de dire le lien de filiation. Je crois que le droit romain présente, entre autres, cet intérêt. Mais j'entends ici par droit romain non seulement le droit romain de Rome, mais le droit romain interprété en Europe jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Il présente cet intérêt. C'est que le sang n'a qu'une valeur métaphorique. Le sang n'est jamais le sang qui... le sang biologique qui court dans nos veines, le sang est une image pour, et une image très rarement employée d'ailleurs, et utilisée avec énorme et extraordinairement d'économie pour dire la filiation. Parce que le lien de filiation, c'est un lien de droit. Voilà, il faut commencer par là. Le lien de filiation est un lien de droit. Et j'entends par lien de droit ce que les Romains eux-mêmes entendaient par là. C'est-à-dire un lien qui se substitue à un lien matériel. Bon, les juristes romains de l'époque classique, des 2e et 3e siècles de notre ère, définissaient l'obligation née du contrat comme un lien de droit. Pourquoi, disaient-ils, vinculum iuris ? Eh bien, parce que justement, le débiteur obligé, c'est-à-dire contraint à payer sa dette à son créancier, eh bien, ce débiteur ne portait pas les menottes. Il n'était pas lié au sens où il n'était pas prisonnier pour dette. Bon. Les Romains supposaient qu'il avait été un temps pré-juridique où le débiteur non seulement devait payer sa dette à son créancier, mais que la garantie de ce paiement était constituée par un lien, vinculum, mais ce lien n'était pas de droit, il était de métal, il était de fer. C'était le collier de l'esclave, le carcan de l'esclave, c'était la prison pour dette, c'était même l'exécution capitale pour dette. Voilà le lien. Le lien, c'est en quelque sorte la garantie qui fait que le créancier sait qu'il sera payé. Quand on parle de lien de droit à propos de l'obligation juridique et de la dette, on entend que ce lien est invisible. Certes, il n'est pas matériel, il est incorporel. Déjà, il est incorporel. Étant vinculum iuris, il est incorporel. Et étant vinculum iuris, lien de droit, il n'a d'existence et d'effectivité que dans la réalisation de procédures juridiques. Et je reviens maintenant au lien du sang. Je disais tout à l'heure que le lien de filiation est un lien de droit, effectivement. Nous avons des textes, quelques textes. Malheureusement rare, mais qui nous le disent très clairement. Un lien de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Un lien de droit, ça veut dire que ça exclut totalement le lien matériel, car de droit, ça veut dire incorporel. Ça exclut totalement le lien matériel, le lien physique, ou le lien biologique, qui est le lien du sang. Bien, premièrement. Deuxièmement, ce lien de droit, donc ce lien de filiation comme lien de droit, est un rapport qui se situe inévitablement dans un ordre généalogique, mais c'est un rapport construit par les institutions juridiques. Autrement dit, la loi assigne à tel ou tel un père. Il se trouve que le père que la loi m'assigne est le mari de ma mère. Et le mari de ma mère est supposé, ou plus exactement, employant un langage précis, présumé être mon père en raison de ce qu'on appelle une présomption légale. Et on ne peut pas croire autrement. On peut croire autrement, mais bien celui qui n'y croit pas en est pour ses frais. Il y a un lien de sang. Il y a un lien de sang entre ma sœur adoptive et moi. Voilà. Bon. Il y a un lien de sang entre l'épouse de mon père et moi. Alors nous pourrions penser qu'il y a un lien de sang entre ma mère et moi. Mais non. Le lien de sang entre ma mère et moi n'est dit tel que parce que ma mère étant sous la puissance maritale de mon père, c'est-à-dire sous la même puissance dans laquelle je suis moi, comme fils de mon père, partage avec moi la même mouvance juridique. Vous voyez que dans ces deux cas, la sœur adoptive, sous puissance du même père que moi, qui est ma sœur de sang, et la mère, en tant qu'elle est mariée sous le régime de la puissance maritale, et qui relève de la même mouvance juridique de moi, eh bien ces deux exemples vous montrent bien qu'il y a sang, et lien de sang, parce que précisément, il y a coexistence à l'intérieur d'un même ressort juridique, du même mouvement juridique.
L'enjeu généalogique des institutions est simple et cependant surprenant pour un esprit d'aujourd'hui. L'économie et les médias unifient la planète, mais partout il faut encore fabriquer l'homme, le fils de l'un et l'autre sexe, semblable à tous les hommes, mais unique et différent. Partout, la fabrique de l'homme est un pouvoir, le pouvoir de différencier. Comment le pouvoir se différencie-t-il lui-même pour occuper une place marquée d'où il exerce sa fonction? Comment le pouvoir d'enfanter l'homme dans la culture est-il lui-même enfanté? Il faut pour cela des artifices, des fictions, le roman religieux ou politique qui, en toute société, met le pouvoir en scène afin de jouer le rôle suprême, le rôle de référence ultime de toutes les constructions généalogiques. En somme, le rôle de fonder tous les parents à être des parents. Le pouvoir est ainsi lui-même une construction généalogique artificielle, une forme abstraite de parents à l'échelle de la culture. C'est parce qu'il y a ce mécanisme-là, rendu possible par la parole, que l'humanité a découvert que le sang n'était pas le sang et inventé des techniques inouïes de filiation. Voyez ce miracle qu'est l'adoption, qui, comme disaient les Romains qui nous l'ont transmise, imite la nature. Un enfant naît pour des parents par la parole instituée et par les écrits du pouvoir. Voyez encore la floraison de ces filiations secondes qui échafaudent d'autres sortes de parents, substitutifs ou supplémentaires, pour des adultes cette fois, tels les ordres monastiques, qui ne sont pas un apanage des sociétés de tradition orthodoxe ou catholique, etc., etc. L'humanité n'en finira jamais d'exploiter les ressources du pouvoir de référé, de ce pouvoir qui constitue le noyau dur des religions et des systèmes politiques. Thank you.
Daniel Boulet et Roger Gistin, Méran, mai 1992.
Qui dit placement de jeunes enfants renvoie à nourrice. Renvoie à nourrice. Bon. Et quand on renvoie à nourrice, alors là, c'est facile pour comprendre. Il n'y a pas 36 000 exemples à prendre. Il n'y en a qu'un que tout le monde comprend, c'est le jugement de Salomon. Voilà. Arrive devant Salomon, deux femmes qui revendiquent le même enfant. Arrive devant le juge des enfants, deux femmes qui revendiquent le même enfant. La nourrice, celle qui l'a élevée, et la mère génitrice. C'est toujours ça, toujours ça. Il n'y a jamais d'autre histoire que celle-là. Et vous savez bien comment ça se passe. À un moment donné, Salomon dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je le tue, l'enfant, hein? Comme ça, personne ne l'aura, hein? Qu'est-ce que je fais? Et l'une des femmes dit, non, donnez-le plutôt à l'autre. Salomon répond, c'est celle-là, la mère. Voilà. C'est-à-dire que le travail de placement, à quoi ça devrait aboutir? Toujours à ça. Toujours à ça. C'est-à-dire que une mère qui, pour des raisons tenant à son histoire, se met à incarner une espèce de mère mythique toute bonne. C'est généralement celle-là d'ailleurs qui maltraite son enfant, mais qui le dit pas. Parce que la mère toute bonne, c'est aussi celle qui a envie de tuer son enfant. Comme tout le monde. Enfin, je veux dire que tous les gens ont envie de tuer leurs enfants, quoi. Enfin, il n'y a pas de gens, on les juge comme les autres. Je pense à ce substitut qui arrivait un jour à l'audience du tribunal pour enfants, qui avait des jumeaux et qui avait une sale gueule. Je lui dis, dis donc, t'as l'air fatigué ce matin. Il me dit, tu sais, mes jumelles ont braillé toute la nuit. Je voulais les tuer. Il était substitut des mineurs, chargé de protéger contre les mauvais traitements. Il a fait une bonne carrière depuis, d'ailleurs, il les a pas tués. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un placement réussi, ça devrait aboutir à ça. Ça devrait aboutir à ce qu'une mère, après qu'elle ait toujours refusé qu'on mette son enfant ailleurs, parce que pour des raisons objectives, elle ne peut pas s'en occuper. Ce sont pas des fantasmes de juge, ce sont... Il faut voir ce qu'on peut faire subir aux nourrissons. Enfin, c'est difficilement imaginable. Donc, il y a des moments où on est amené à placer. Bon. Il faudrait que cette mère puisse pouvoir faire ce chemin que fait toute mère. C'est-à-dire ce que le grand psychanalyste Winnicott appelle la « Goodenough Mother » et que les psychanalystes français traduisent par « la mère à peu près bonne sans plus ». Toute mère doit devenir une mère à peu près bonne sans plus, quoi. Celle qui prétend incarner la mère absolue et la mère toute bonne, en général, ça fait des fils en grande difficulté. Les défis. Et vraiment, c'est ça le jugement de Salomon. C'est que, à travers ce placement, cette mère reconnaisse, dans le fond, qu'elle n'est pas toute bonne ou toute mauvaise, parce que c'est ça les mères du tribunal pour enfants, mais qu'elle est bonne et mauvaise, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir envie de tuer son enfant certaines fois, mais d'une façon générale, elle est capable de bien s'en occuper. Une mère bonne et mauvaise. Et à travers Salomon, c'est ça. Donc le placement devrait servir à ça. Le placement, là, devrait faire que la fonction séparatrice qui n'a pas pu se réaliser dans tous ces cas-là, parce que un homme n'a pas pu incarner cette fonction séparatrice. Il y a eu des hommes, ils sont passés, ils sont pas restés, ils ont pas donné leur nom. Ils ont pris du plaisir, mais ils l'ont quitté et elle peut pas être mère. Parce que la grande histoire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de père sans mère, il n'y a pas de mère sans père. C'est ça. Elles peuvent pas devenir mère parce qu'il n'y a pas à côté d'hommes en place de père. Donc, on demande aux institutions. Donc, on va placer dans une institution qu'on appelle la DAS, mais dont le problème depuis toujours, c'est qu'elle veut jouer à la super-mère. Et qu'elle a des nourrices qui veulent jouer à la super-mère. C'est formidable, le statut salarié des nourrices. Les gens ont crié en disant « Ah, le bénévolat !» Mais non, c'est formidable. Parce que ça en fait pas des super-mères. Ça en fait des mères limitées, des mères référées, des mères mandatées, des mères d'appui, des mères un temps de substitution. Et le gosse, il peut se réapproprier son histoire avec sa génitrice, celle dont il a généralement le nom, c'est-à-dire le nom de son propre père à elle, s'il n'y a pas un homme qui est venu là.
Mais c'est un gamin qui, à 11 ans et demi, a été foutu dehors par son père, par sa mère, et qui ne supportait pas lorsqu'il allait dans, on le mettait dans un foyer, dans un endroit fixe, il foutait le camp par les toits, il s'échappait de partout. Et lorsque Daniel m'a parlé de lui, on a réussi à le coincer à l'éducation surveillée, et je suis allé le voir. Et tout de suite, j'ai senti que ce gamin avait quelque chose de bon au fond de lui. Je t'en avais parlé, Daniel. Seulement, il fallait le coincer. Pas moyen. Je devais aller le chercher le lendemain. Évidemment, ce que j'avais prévu, c'est qu'il foutrait le camp dans le... Il a fait une fugue dans la nuit, il a foutu le camp. Et on l'a coincé dans un... Je sais pas ce qu'il avait fait, je me souviens plus très bien. Il avait, oui, il voulait cambrioler un magasin de fourrure pour vendre aux prostituées. Et, on l'a coincé en prison. Et pendant un mois, je suis allé le voir à la prison. Et puis, il m'a dit après, je pensais que j'allais sortir et rester 3 jours avec toi. Et il est resté 3 ans avec moi. Ça n'a pas tout le temps été drôle, parce que c'est un petit... Poulebeau, quoi. Enfin, c'est un petit gamin.
C'est bien le mot, Roger.
Ah oui, c'est un petit poulebeau, quoi, qui vivait dans la rue, quoi, qui vivait dans la rue, qui vivait. Il ne savait pas manger, il ne savait pas. C'était impressionnant. J'étais très impressionné lorsque je le voyais manger. Il avait de l'appétit, mais c'était un petit peu comme la bête, quoi. Et je lui ai tout appris.
Tu me racontais ce soir terrible de Noël qu'il avait passé avec son copain où personne n'avait voulu de lui.
Voilà. Et alors un jour, il me dit, mais c'est le jour où j'étais venu réveillonner avec toi, tu vois,
à la maison.
Et il m'a dit, mon père va être content de me voir, Roger, tu me prépares une caisse d'huîtres et puis on va l'apporter à mon père, je vais réveillonner avec lui, etc. Bon, alors je lui fais une caisse d'huîtres, comme ça. On arrive chez le papa. On nous met des patins pour pas salir sous les pieds. Et puis ce monsieur, il y avait dans un an que son fils était avec moi, il me parle de la pluie, du beau temps, que le lendemain il allait sûrement faire de l'orage, enfin des trucs comme ça, quoi. Et le gamin n'a pas supporté. Je sais pas moi, j'aurais eu un gosse qui vivait avec quelqu'un depuis un an, hein, j'aurais parlé d'autre chose que de la pluie. Et bien, le gamin me dit, vite Roger, on fout le camp et on s'en va chez ma mère. Nous sommes partis chez la mère et la mère... Elle avait à peu près le même raisonnement, elle ne l'a pas voulu. Et il m'a dit, amène-moi chez mon oncle. Et chez l'oncle, on a traversé le pont, le grand pont d'Aquitaine. Et là, il s'est foutu à pleurer, le gamin, à sangloter. Il s'est foutu contre mon épaule, puis il m'a dit, Roger, je n'ai que toi, ne me laisse jamais. Et alors là, je l'ai laissé chez l'oncle, qui l'oncle faisait réveillon ailleurs. Le gamin n'a pas supporté. Ils sont revenus à deux à Arcachon. Et ça a été une nuit mémorable à Arcachon. Ils avaient évidemment perdu les clés de l'appartement. Ils sont passés par les toits. Enfin, ils ont ameuté la moitié d'Arcachon. Voilà. Et c'est un gamin qui volait tout ce qu'il voyait, ce qu'on disait. Et il a été le plus honnête que j'ai rencontré. Je pouvais lui laisser 1 million sur la table et partir sur le parc à huîtres, il aurait préféré mourir de soif ou de faim plutôt que de toucher cet argent-là.
Je pense que il y a des tas d'enfants à adopter, voilà, de par le monde. Mais qu'en aucun cas, quand on peut faire autrement, les critères économiques, alors là c'est une position qui est la mienne, ne doivent être des critères d'adoption. Pour moi, les seuls critères d'adoption, ce sont effectivement, bon, des enfants qui n'ont pas de gens qui aient envie auprès d'eux de jouer un rôle de parent et pour qui les institutions ne peuvent pas forcément très bien jouer ce rôle. Alors, c'est à évaluer dans chaque cas, bien entendu. Hein? Dieu merci, ça se fait pas par ordinateur. Je suis très favorable lorsque des parents, par le sang, ont disparu et qu'un enfant est élevé depuis un nombre d'années important dans une famille. Que cette famille puisse l'adopter, quoi, si elle le désire. Ça, vraiment, ça me paraît que effectivement, ce qui est le fait devienne le droit, car il les appelle mes parents, quoi. À condition, bien sûr, que tout ce qui est de son histoire avec ses géniteurs puisse continuer à être repris, s'il le souhaite, avec cet enfant, etc. Enfin. Car vous savez, la fameuse idée des enfants adoptés qui recherchent leurs vrais parents, on sait que dans tous les cas, quand ils les retrouvent, ils les voient une fois, ils les revoient jamais, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait tout le temps. Tout le temps. Par contre, moi, ce que j'ai toujours favorisé au moment de la majorité des enfants, c'était la possibilité pour eux de consulter leur dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants avec un éducateur ou quelqu'un, de façon que ça ne soit pas... Et de découvrir, ce qui est toujours extraordinaire pour eux, que leur mère ne les a pas abandonnés, mais que c'est un juge qui les a retirés contre la volonté de leur mère. C'est pas rien, quoi. Ma mère m'aimait terriblement. Elle m'aimait tellement qu'elle s'est cachée avec moi un peu partout dans des maisons, qu'elle a fui dans toute la France. Et c'est un juge qui m'a retiré, mais c'est pas elle qui m'a abandonné. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup d'adolescents le faisaient et repartaient apaisés. Et plus tranquilles.
Maintenant, une question urgente pour nous. Comment le capital généalogique dont vivent les individus est-il imbriqué avec la généalogie des institutions religieuses ou politiques? Qu'y a-t-il de commun entre ces deux registres? Ils ont en commun une nécessité logique, différencier les places dans la vie symbolique de l'humanité. Autrement dit, fermer la porte à l'inceste et au meurtre. Non pas nécessairement à l'inceste et au meurtre physiquement accomplis, mais à des formes symboliques d'inceste et de meurtre que nous ne soupçonnions pas avant la découverte de l'inconscient. Toutes les cultures fabriquent un savoir qui met en scène le pouvoir de différencier et en tire des règles pratiques qu'en Occident nous appelons le droit civil des filiations. Au fond de ce savoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une idée très simple. L'enfant doit recevoir son dû, un nom et des paroles instituées qui le séparent de sa mère, un statut de droit qui le prépare à devenir à son tour débiteur de la vie, à payer à d'autres leur dû. Voilà pourquoi on peut appeler ce savoir la science du lit de la naissance. Elle boucle la naissance biologique. Elle ouvre la seconde naissance. Cette science est le geste sûr des sociétés qui fait découvrir aux parents que l'enfant n'est pas leur propriété. Elle émet face à la grande affaire de la séparation, consciente mais surtout inconsciente, où leur enfant va jouer son destin. Cette science ne peut être mise à la charge des parents qui, à leur niveau, sont seulement des interprètes. Elle est à la charge de chaque société, car c'est la société, la culture, qui pour chaque anneau vivant de la chaîne est en fonction de représenter la chaîne humaine tout entière et garantit au trio de la reproduction, la mère, le père et l'enfant, l'accueil institutionnel. Écoutons là-dessus les témoignages classiques de l'humanité.
Thank you.
Nicole Denac, Dominique Bonnidan et Joël Vouault, Montreuil, juillet 1992.
Vous avez parlé de la pouponnière en tant que pouponnière sanitaire. C'est vrai que nous recevons des parents, des enfants dont les parents sont très présents, bon, et pour lesquels nous n'avons pas beaucoup à intervenir dans la question de la filiation, parce que ces parents sont très présents. Mais nous avons beaucoup d'enfants dont les parents peuvent être présents plus ou moins physiquement, mais pour lesquels nous sommes obligés d'intervenir parce que ils sont en difficulté pour s'occuper très directement de leurs enfants. Hein. Et dans ces cas-là, effectivement, nous avons à intervenir, et également pour des enfants dont les parents ne sont pas présents. Bon, nous recevons très peu d'enfants nés sous X. Mais nous recevons des enfants qui ont été reconnus par leurs parents, mais qui sont délaissés par eux, ceux-ci étant en grande difficulté. Et dans ce cas-là, nous avons également à intervenir.
Et notre premier travail, quand nous accueillons ces enfants, c'est d'essayer, avec les équipes qui nous les confient, d'écrire un bout de l'histoire de la famille, de cet enfant, c'est-à-dire de ce qui est connu des services, de l'histoire de son père, de sa mère, et comment lui, cet enfant, s'inscrit à ce moment-là, au moment de son arrivée dans la pouponnière, dans cette histoire familiale. Ce que nous avons à constater, c'est que de toute façon, tout le travail d'accompagnement dans la restauration des liens ou d'accompagnement dans l'interruption de ces liens, que nous aurons à faire auprès de cet enfant est un travail qui s'inspirera fortement de son inscription dans cette filiation et qui n'aura aucun souci de nier cette existence-là. Au contraire, nous allons chercher à reconnaître de quoi il s'agit, dans quoi est inscrit cet enfant, dans quelle histoire familiale, et c'est à partir de cette reconnaissance-là, avec les évaluations que nous ferons des possibilités qu'ont ses parents biologiques de s'occuper de cet enfant, que nous construirons un autre morceau d'histoire avec eux.
Hein. Je peux vous demander concrètement quelle forme prend cette construction ?
Notre premier souci va être de rechercher un contact direct, même si c'est accompagné des travailleurs sociaux qui s'occupent de ces situations, avec ses parents. Ce qui ne signifie pas que les parents vont revoir dans n'importe quelle condition l'enfant, mais que l'institution pouponnière va avoir un contact direct avec eux. Ça, c'est le premier pas vers lequel nous tendons. Il n'est pas toujours réalisable, mais c'est notre...
Oui, je pense aussi que ce qui est important, c'est de parler à l'enfant de son père et de sa mère, même si nous ne les connaissons pas, même si nous ne savons rien d'eux. Hein. Il nous est arrivé d'accueillir des enfants amenés par la brigade des mineurs, par exemple, sans rien savoir de leurs parents, et de rester plusieurs jours sans savoir où étaient ses parents. Mais toujours, nous leur disons, tu as un papa et une maman, nous ne les connaissons pas, ils sont certainement en difficulté pour ne pas avoir pu t'accompagner, hein, mais nous sommes en train d'essayer de les rechercher. Hein. Et on a un cas très précis d'un enfant qui nous avait été adressé par l'aide sociale à l'enfance, la maman étant en grande difficulté psychique après sa naissance. Et les raisons de l'admission étaient pour faire une observation des relations mère-enfant. Or, on s'est trouvé à ne pas rencontrer cette mère pendant plusieurs semaines. Les vacances de Noël sont arrivées. Moi, je suis partie en vacances et je suis revenue au bout de 15 jours. Nous n'avions toujours aucune nouvelle d'aucun service concernant cette maman. Et j'ai trouvé ce bébé en très très mauvais état. Il fuyait le regard, il était triste, il pleurait sans arrêt, il dormait beaucoup. Et avec la pédopsychiatre de la pouponnière, nous avons fait des recherches pour retrouver cette mère qui était hospitalisée. Et à partir du moment où j'ai pu dire à ce bébé, nous savons où est ta maman est malade en ce moment, je vais aller la voir, hein, je vais lui parler de toi, je vais lui emporter des photos, ce bébé tout de suite a été mieux. Hein, parce qu'il avait pu faire un lien, il s'inscrivait, je dirais, un peu dans une lignée, c'est-à-dire qu'on savait qu'il avait une maman qui était malade, et qui allait, dont on allait pouvoir à nouveau lui parler. Et effectivement, j'ai rencontré cette maman, qui n'était pas bien du tout, hein, qui était très très mal psychologiquement, mais qui a reconnu son enfant par les photos que je lui avais apportées et qui m'a dit « Vous direz à mon fils que je vais aller le voir ». Et effectivement, quelques jours plus tard, elle a pu venir accompagnée par une infirmière pour rencontrer son bébé. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'il avait suffi par le langage d'inscrire cet enfant dans une lignée, lui dire « Tu as une maman, tu as un papa » pour que tout de suite il aille mieux. Je crois que ça, c'est excessivement important.
Et dans ce cas que vous venez de nous relater, le père, qu'en était-il ?
Le père était très présent, puisque c'était un couple marié, hein, mais qui était tout à fait débordé par la maladie de sa femme, hein, qui a fait un délire très très important, puisque elle ne savait même pas, au moment de, après son accouchement, si son enfant était le sien. Hein, bon, ce qui fait qu'elle avait même envisagé de l'abandonner. Hein, et qu'il a fallu faire tout un travail de reconstruction, hein, par rapport à cette maman et par rapport à ce bébé et également par rapport au papa. Hein. Bon, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, cet enfant est toujours à la pouponnière. Il a 3 ans, il va très bien. Sa maman aussi, il va partir la semaine prochaine. Chez ses parents. C'est quand même notre but, hein, à la pouponnière. Ce que nous souhaitons, c'est notre projet, dans tous les cas, et nous le disons toujours aux parents quand, avant l'admission, c'est que notre projet à nous, pouponnières, c'est de tout mettre en œuvre pour que l'enfant puisse repartir chez ses parents. Hein. C'est possible ou ça n'est pas possible, mais c'est toujours notre but premier. Et je crois que ça, c'est excessivement aussi important pour les parents de savoir que nous les reconnaissons en tant que parents malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir.
Quand des parents viennent vous confier eux-mêmes leurs enfants, quel discours tiennent-ils ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
En général, ce qu'ils ramènent de cette situation, c'est qu'ils sont empêchés momentanément et malgré l'affection qu'ils portent à leurs enfants, parce que ça, c'est toujours au premier plan. Hein. C'est toujours un moment douloureux pour les parents d'accompagner, de faire le constat qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins primaires de leurs enfants, c'est-à-dire physiques, psychologiques, matériels. Ils ne peuvent pas leur fournir ce genre de choses. Et c'est toujours dans un moment de grande souffrance que cette arrivée à la pouponnière se fait. Pour les parents, qui peuvent l'exprimer avec des mots, que nous accueillons, que nous recueillons ces mots, que nous reconnaissons avec eux cette situation, que nous leur faisons une proposition qui est que, en aucun cas, en tout cas un engagement de notre part, en aucun cas nous n'essaierons de prendre leur place en tant que parents. C'est-à-dire que nous allons accompagner l'enfant avec nos moyens, nous souhaitons qu'il soit près de nous, ses parents, qu'ils soient avec nous pour faire ce chemin, ce bout de chemin qui n'est pas déterminé à l'avance, pendant lequel ils auront besoin de cet étayage. Et nous, en tout cas, nous ne prendrons jamais leur place. Et c'est pourquoi Nicole Denac vous disait qu'il est très important que nous ayons en tête les parents, quand nous nous occupons d'enfants aussi jeunes, que nous, c'est-à-dire nous, moi l'assistante sociale, elle la psychologue, l'auxiliaire qui va s'occuper de cet enfant. Parce qu'en effet, en aucun cas, nous ne devons ni nous ne pouvons prendre cette place qui est la place du père et de la mère. Même si nous devons, avec l'enfant, avec le personnel, faire tout un travail dit de deuil, c'est-à-dire au moment où ses parents ne vont plus pouvoir venir et vont délaisser l'enfant, en aucun cas, nous devons avoir le réflexe de prendre une place qui serait laissée vacante. Parce qu'à ce moment-là, nous entraînerions les enfants dans une pathologie, alors qu'ils sont effectivement inscrits quelque part dans une lignée familiale, même si cette lignée s'interrompt dans la mesure où les parents ne viennent plus. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une énorme souffrance autour de cette arrivée, et il y a une souffrance énoncée par les parents et vécue par l'enfant qui souvent, par exemple, s'endort au moment de l'arrivée, et dans les bras de sa maman, s'endort, ne voit rien, n'entend rien, ne veut rien savoir de ce qui se dit, de ce qui se passe autour. Et nous, on est très très présents et très insistants pour que la maman revienne très vite et qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé ce jour-là avec l'enfant, avec la mère, avec le père. Je dis la mère parce que, hélas, c'est très souvent plutôt les mères que nous voyons arriver. Et souvent aussi, un de nos objectifs, c'est d'aller à la pêche des papas. Hein, de les retrouver, parce que très souvent, ils ont une existence légale, et puis on ne les voit pas arriver jusqu'à nous et jusqu'à leur enfant. Et quelquefois, ce travail est permis justement parce que la pouponnière est la pouponnière. C'est-à-dire parce que l'enfant n'est plus auprès de sa maman, on voit quelquefois arriver des pères qui s'autorisent à retrouver une existence physique auprès de leur enfant parce qu'il n'y a pas de drame vécu en permanence entre le père et la mère auprès du berceau de l'enfant. On sert de tiers dans ces cas-là.
À propos des pères, souvent les mamans ne savent même pas, ne peuvent pas désigner nommément un père, mais on essaie de faire un travail pour que quand même, elles-mêmes arrivent à parler à leur bébé du père quand même qui existe, parce que c'est pas la génération spontanée ou la parthénogenèse, il y a eu un père, et c'est vrai que c'est excessivement important qu'on arrive à ce que cette mère qui a toujours un père dans la tête pour son enfant, quel qu'il soit, puisse arriver à le mettre en mots à son bébé. Ça, je crois que c'est un des travaux les plus difficiles à faire, parce que souvent, elles nous disent, là, les hommes, terminés, puis je sais même pas quel est le père. Et on essaie de leur faire comprendre combien ça peut être important pour ce bébé quand même, qu'il y ait un père nommé. Le nom du père, c'est important.
Effectivement, on est vigilant à ce que les parents aient une place, qu'on essaye de le leur transmettre, mais que du fait même de la situation, on ne peut en aucun cas empêcher qu'ils pensent que nous sommes des rivaux et que nous nous approprions leurs enfants. Je crois que ça, dans la réalité de tous les jours, dans la quotidienneté, ils ont cette pensée. Et nous, on nage à contre-courant sans arrêt en essayant de mettre des mots, en essayant de leur permettre de s'approprier leur enfant. Quelquefois, ils ne l'ont jamais fait avant nous, avant de nous rencontrer.
C'est-à-dire que on reçoit des enfants quand même qui sont maltraités, qui sont victimes de sévices sexuels. Et c'est vrai qu'on a des parents qui sont abominables, entre guillemets, et que c'est très difficile d'arriver à faire passer, par exemple, auprès des auxiliaires, que ces parents-là, même s'ils ont été maltraitants vis-à-vis de leurs enfants, sont leurs parents. Et on s'aperçoit que l'enfant, souvent, est maltraitant par rapport à ses parents, si vous voulez, parce qu'il fait revivre aux parents toutes les carences qu'eux ont eues. En général, tous ces parents sont des parents qui ont eu des enfances absolument abominables, épouvantables, et que, n'ayant jamais rien reçu ou reçu de mauvaises choses, sont incapables de transmettre de bonnes choses à leurs enfants. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui est extrêmement difficile et dur auprès des auxiliaires, qui, on les comprend, ont des réactions de rejet par rapport à ces parents-là. Moi-même, ça m'est arrivé par rapport à un enfant qui était né dans des conditions abominables puisqu'il avait été mis au lit d'ordures par sa mère. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un mouvement d'horreur quand on apprend ça. Et c'est vrai que je crois que moi, j'ai pu me permettre de le dire aux parents, qu'il m'avait fallu un petit moment, que j'avais eu des émotions très fortes en apprenant ça, mais que j'avais pris de la distance et que je pouvais les aider. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour des jeunes femmes qui apprennent qu'un enfant a été victime de sévices sexuels, par exemple de la part de son père, d'être neutre et de recevoir ce père avec un grand sourire. Ça, c'est un travail que je trouve extrêmement difficile, qu'on arrive à faire quand même, mais je pense que c'est excessivement important pour l'enfant de lui renvoyer une image positive de ses parents, quels qu'ils soient, parce que ce sont ses parents et qu'il leur doit la vie. Je crois que ça, c'est très important.
Là aussi, c'est, je dirais, un a priori, c'est que nous, on a envie de permettre à cet enfant, bien qu'il soit inscrit dans une histoire souvent effectivement extrêmement carentielle que ses parents ont subi, qu'il soit un bon objet. Et pour qu'il soit un bon objet, il faut qu'effectivement nous acceptions nos mauvaises pensées, à nous aussi, institutions, personnel dans cette institution, c'est-à-dire que, comme le disait Nicole Denac tout à l'heure, autant nous, peut-être de par notre formation, nous avons la possibilité de nous dire que nous avons de mauvaises pensées à l'égard de ses parents, qui nous ennuient, qui font de travers ce qu'on leur demande, qui ne font que nous montrer de façon très caractérielle tout ce qui est mauvais chez eux, et que nous nous acharnons à vouloir voir chez eux quelque chose de bon, ne serait-ce que leur enfant. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est une lutte quotidienne, permanente, de toutes les secondes, parce que, et nous, nous mettons des mots là-dessus. C'est-à-dire que autant les auxiliaires peuvent pas se le permettre, autant dans le travail institutionnel que nous faisons, nous mettons en scène dans nos mauvaises pensées à l'égard des parents pour que les auxiliaires puissent aussi évoquer des choses de ça. Hein. Ce qui nous paraît important, que les paroles soient dites, qu'il y ait une parole autour de cet enfant sur les mauvaises choses et les bonnes choses.
Vous parliez tout à l'heure d'abandon progressif, de parents qui peu à peu délaissent. À partir de quel moment, quand vous vous rendez compte d'un tel processus, vous engagez la mise en place ou la mise en route d'une procédure d'adoption ou d'une famille substitutive?
Je voudrais dire que dans le cadre de l'accueil de cette mère et de ce bébé dont on a parlé tout à l'heure, cette hypothèse est toujours évoquée au moment de l'admission de l'enfant. C'est-à-dire que, tenant compte de la souffrance dans laquelle peut se trouver ce père ou cette mère qui est amené à amener son enfant dans l'institution ou à le confier à l'aide sociale à l'enfance, nous évoquons toujours la possibilité qu'à un moment ou à un autre, cette souffrance soit tellement importante que le père ou la mère ne puisse plus venir nous montrer qu'il aime son enfant, ce que nous savons au départ. Hein. Et nous faisons toujours la proposition de pouvoir accompagner le père ou la mère, ou les deux, dans cette démarche d'abandon, c'est-à-dire de positiver ce geste, de leur permettre de l'agir et non pas de le subir, comme un acte d'amour éventuel pour l'enfant également, c'est-à-dire de lui donner sa chance de rencontrer, parce qu'il est un bon objet justement, et c'est pour ça qu'on a tant besoin que son père et sa mère se penchent sur son berceau, parce que il faut qu'ils le regardent, qu'ils le reconnaissent, et qu'il soit un objet vivant, un bon objet investissable, parce que sinon, nous, on pense que il ne pourra pas accepter d'être dans le regard d'un autre, d'un tiers, d'un parent adoptif, d'une famille d'accueil, un bon objet, si quelque part il n'a pas été un petit peu au départ dans le regard de sa mère ou de son père. Donc c'est vrai que ce travail-là, nous le proposons dès le départ de façon pratiquement systématique. Les parents quelquefois s'en rappellent pas. Hein? Mais c'est vrai que au fur et à mesure des moments où on se rend compte dans la prise en charge de l'enfant, on le rappelle. Que c'est toujours une possibilité et que ça peut être un acte ultime d'amour d'une mère ou d'un père vis-à-vis de son enfant s'il fait le constat que c'est par trop douloureux pour que quelque chose de plus positif se passe entre l'enfant et lui.
D'ailleurs, souvent, nous avons l'occasion de revoir à la pouponnière des enfants qui ont fait des séjours plus ou moins longs et qui, vers 10-11 ans, reviennent. Pour nous poser des questions, et j'en vois un demain, un petit garçon qui a été adopté, qui a 5 ans, et qui a souhaité revenir à la pouponnière parce que il a vu dans son carnet de santé qu'il était resté ici pendant 6 mois, et nous avons retrouvé avec l'auxiliaire de périculture qui s'est occupé de lui des photos que nous avons fait retirer. Je pense que ça va être excessivement important pour cet enfant de retrouver des photos de son séjour à la pouponnière, de revoir l'auxiliaire qui s'est occupé de lui. Hein. Et l'année dernière, il y a un enfant de 11 ans qui est revenu et qui disait à ses parents adoptifs « Moi, je ne sais rien de ma naissance à 2 ans. Vous m'avez eu à 2 ans, mais pour moi, c'est le trou noir. Avant, je n'existais pas. » Et ses parents m'ont téléphoné. Moi, comme je suis ici depuis très longtemps, j'ai retrouvé le dossier de cet enfant, j'ai retrouvé des photos. Et quand il est venu me voir, j'ai pu lui dire, voilà, tu es arrivé, tu étais tout petit, et tout de suite on t'a accueilli. Et j'ai pu retracer son histoire, je dirais au fil des jours, en retrouvant son dossier, qu'à tel âge il avait commencé à marcher, qu'il était insupportable, qu'il grimpait partout, qu'il était tombé, qu'on avait obligé de le recoudre. J'ai retrouvé des petits dessins qu'il avait fait, des gribouillis. La secrétaire, qui était déjà là à l'époque, a pu lui dire que c'était un peu son petit chouchou, qu'elle le prenait régulièrement sur ses genoux, qu'elle se faisait gronder par la directrice de l'époque en lui disant, qui lui disait, vous n'êtes pas ici pour vous occuper des enfants, mais pour taper à la machine. Enfin, tout ça, en fait, a reconstitué son histoire. Et moi, je m'attendais un petit peu à ce qu'il me pose de la question par rapport à qui m'a amenée ici. Or, moi, je connaissais sa maman, hein, qui l'avait amené. Or, cet enfant, avec son dossier, savait qu'il pouvait poser toutes les questions qu'il voulait, ne m'a posé absolument aucune question sur qui m'a amené ici. Et je ne me suis pas permis, moi, de lui dire, voilà, c'est ta maman qui t'a amené, je l'ai connue. Je pense que s'il l'avait voulu, il aurait pu poser la question. Je ne l'ai pas fait, je ne lui en ai pas parlé, parce qu'il ne m'a pas posé la question. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est répondre aux questions des enfants, hein, mais ne pas provoquer, si vous voulez. Je crois qu'après tout, ils ont droit aussi à ne pas vouloir savoir.
Hein. Moi, j'ai reçu aussi un jeune homme, cette fois qui avait une vingtaine d'années, qui était à la recherche un peu de son histoire, lui aussi, qui avait vu qu'il était passé dans plusieurs établissements, plusieurs institutions, et qui m'avait donc demandé de venir visiter, de venir à la pouponnière pour essayer de vivre quelque chose. Et c'est vrai que là aussi, j'ai cherché le dossier, j'ai essayé de trouver quelque chose pour lui parler, et j'ai vraiment trouvé très peu de choses. Et je m'amuse toujours à dire que la seule chose que j'ai pu lui donner, c'est une photocopie de sa courbe de poids et de taille. Mais il est certain qu'il est parti avec quelque chose et il était venu ici, il y avait son nom qui était inscrit et pour lui, il avait existé ici.
C'est-à-dire que vous pensez que c'est l'une de vos fonctions de fabriquer des souvenirs ?
C'est excessivement important que l'enfant n'ait pas une période blanche ou un trou noir, si vous voulez, dans son existence, mais qu'il puisse reconstituer son histoire. Ça, je crois que c'est fondamental pour la construction de la personnalité, hein, pour devenir un être humain à part entière.
Nous acceptons d'être témoins de cette partie de son histoire, à la fois parce qu'on l'écrit, mais aussi parce qu'ils peuvent revenir, et c'est vrai qu'il y a quand même une permanence d'une catégorie de personnel qui a permis jusqu'à présent que d'anciens enfants reviennent chercher ce petit bout d'histoire. Hein, même si le cahier a disparu, ils savent qu'il y a ici des traces de leur passage.
D'ailleurs, moi, je pense que la courbe de poids que Madame Vu a pu donner, c'est excessivement important, même s'il n'y avait que ça, ça a dû être pour lui absolument extraordinaire. Hein. Il avait existé, hein, et il avait grandi durant cette période-là.
Tous les enfants qui arrivent chez vous ont un prénom et un nom.
Il n'est pas évident que le nom de famille par lequel l'enfant était désigné à son arrivée soit son nom légal. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'accueillir des enfants et de nous rendre compte à travers ces entretiens que nous avons avec les parents et les documents que nous cherchons à recevoir de l'état civil, que ces enfants ne sont pas légalement reconnus, par exemple, par le père ou par la mère, et qu'en fait, le nom légal n'est pas celui qui est usité par la société. Bon. Donc c'est vrai que dans cette matière, ça nous amène à une certaine prudence. C'est vrai aussi que nous faisons tout un effort pour que le nom de l'enfant lui soit inscrit partout à la pouponnière, y compris dans ses vêtements. Par exemple, on essaye d'obtenir directement des parents, et si ce n'est pas eux qui les fournissent, des institutions type DAS qui donnent de quoi acheter des vêtements pour les enfants, que leurs vêtements soient personnalisés, soient vraiment à eux. On a des luttes intérieures avec le personnel pour montrer que, par exemple, il n'est pas évident pour Sophie de se retrouver aujourd'hui avec la robe de Gertrude qu'elle portait hier, même si cette robe lui est devenue trop petite. Donc ça, dans des choses matérielles très très bénignes comme ça, qui paraissent sans signification, sans importance, on se bagarre sans arrêt. Parce que la robe de Gertrude, c'est à Gertrude, et quand Gertrude ne peut plus la mettre, soit elle l'offre à quelqu'un, soit elle reste à elle, et il n'est pas question que Sophie porte cette robe. Ça paraît très simple en famille, mais en collectivité, ça devient extrêmement compliqué d'essayer de gérer ce genre de choses. Et autre chose, par exemple, à l'admission des enfants ici, Nous demandons aux familles de nous signer un certain nombre d'autorisations, dont une qui consiste à accepter que les cheveux des enfants soient coupés quand nous les jugeons trop longs. Et ça, en général, pour effet, bien que les parents aient signé ce fameux document dans l'émotion de l'admission, avec tout ce qui est chargé, tout ce qu'on se dit au ce moment-là, quelquefois, ils signeraient bien tout n'importe quoi. Hein. On essaye de bien leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de signer des documents, une autorisation d'opérer en cas d'urgence, une autorisation de photographier leur enfant, justement, dans le sens de préparer ce cahier, de témoin de son passage à la pouponnière. Et puis, il est vrai qu'il y a cette autorisation de couper les cheveux. Ça a l'air banal, mais on a un tas d'histoires, parce que effectivement, des parents ne supportent pas, ce que nous comprenons très bien, et nous trouvons ça plutôt sain même, d'avoir eu à constater que leur enfant avait eu la mèche coupée ou quelque chose comme ça. Et on fait également tout un travail auprès du personnel, bien que l'hygiène soit l'hygiène, etc., pour expliquer que les cheveux de l'enfant sont à l'enfant, que l'enfant appartient à une famille, qu'il a un père et une mère qui seuls peuvent décider s'ils ont envie qu'il ait les cheveux longs, qu'il ait les cheveux courts, qu'il soit blond, qu'il soit roux ou autre. Bon. Et qu'à la limite, même si ce document a été signé, nous redemandons aux parents ce qu'ils penseraient d'une coupe de cheveux pour leur enfant. Pour certains, ils ont fait la coupe eux-mêmes dans la pouponnière sur la tête de leurs enfants, dans le meilleur des cas. Hein. Ou pour certains, ils ont pu sortir l'enfant d'ici parce qu'ils sont autorisés à le faire, l'emmener chez le coiffeur de leur choix, faire la coupe qu'ils veulent. Mais ça, ça paraît des choses tout à fait banales, des détails avec lesquels nous sommes sans arrêt en remise à jour avec le personnel qui, plein de bonne volonté, voit le côté pratique, hygiénique de la chose et irait jusqu'à couper les cheveux, des choses qui... quand on leur dit, mais écoutez, ton enfant va à l'école, imagine que tu le déposes le matin avec une superbe queue de cheval et que tu le récupères le soir avec une coupe à la Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Bon, alors là, ça parle. C'est vrai que c'est des choses, on dit, non, ça, on tolérerait pas. Bon, et ben là, c'est pareil. Donc, ça aussi, c'est une façon de dire, l'enfant n'est pas un enfant d'institution. Attention, il faut respecter ce qu'il est pour ses parents, l'image qu'il leur donne, etc. Je voulais ajouter quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans la société dont je suis originaire, on dit que le nom, c'est l'essence, c'est-à-dire c'est donner vie. Hein. Le nom, ça ne désigne pas seulement une appartenance, ça désigne carrément l'essence, la sève de l'être humain. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est lui donner vie au sens propre, pas au sens où on peut l'entendre.
Vous pouvez préciser
Oui, je suis originaire du Bénin et il est vrai que dans cette région de l'Afrique, le nom n'est pas choisi par le corps social de n'importe comment hein, et que c'est une façon de donner vraiment la vie à la personne dans le groupe.
C'était La Fabrique de l'Homme Occidental, une émission de Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Aujourd'hui, La Chaîne. Avec, autour des textes de Pierre Legendre, Daniel Boulet, Jean-Claude Chanceau, Yann Thomas, Roger Gistin, Nicole Denac, Dominique Bonidan et Joël Vouault. Une émission préparée par Rose Greune et réalisée par Jean Couturier. Prise de son et mixage, Guy Senot, assisté de Pierre-Guillaume Clos.
La Chaîne, diffusée la première fois le 14 octobre 1992. Prochaine émission de cette série des Nuits magnétiques, L'homme en meurtrier, la chaîne est rompue.